Vous écoutez La Rage du Peuple. Nous sommes maintenant rendus à la tant attendue chronique sur le socialisme de Hugo Chavez. Hugo Chavez Frias est un militaire qui a, dans le fond, fait un premier coup d'État, une première tentative de coup d'État il y a quelques années avant celui qui a réussi. Donc, c'était pas la première fois quand il est arrivé au pouvoir par les armes. Qui essayait de renverser le pouvoir. Il a instauré un gouvernement qui, par la suite, a donné lieu à des confrontations avec l'opposition qui était quand même organisée et évidemment ou fort probablement soutenue par les États-Unis qui s'opposent, en fait, à l'instauration d'un pays qui est tout simplement non aligné avec les intérêts capitalistes, impérialistes des États-Unis, en Amérique latine spécifiquement, qui, pour eux, est leur cour arrière depuis très longtemps. Par contre, l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez n'a pas nécessairement changé la nature même de l'État et un peu de la difficulté à intégrer certaines notions du socialisme en tant que tel au sein même de l'organisation sociale. En faisant cette chronique, j'en suis venu à voir Hugo Chavez un peu comme un social-démocrate un peu centré sur un populisme latino. Mais avant de vous lancer gratuitement cette conclusion-là, cette impression que j'ai eue de Chavez, et de son gouvernement, je vais vous présenter quelques critiques qu'on peut faire face au gouvernement. Comme je le disais précédemment, Hugo Chavez n'a pas vraiment changé la nature du gouvernement. Hugo Chavez s'inscrit dans une tradition de leader fort qui va motiver les troupes à la tête d'un appareil d'État. Et sans trop remettre en question cette notion d'autorité ou de paternalisme, Hugo Chavez vient en fait redonner un souffle de vie à travers ce modèle de ce qu'on pourrait appeler les caciques, c'est-à-dire un peu un leader d'une communauté qui est assez présent. Au Venezuela, on parle beaucoup de la dynamique de Chavez. Chavez, au niveau de l'international, va recréer les dynamiques staliniennes du bloc impérialiste contre le bloc progressiste en allant chercher des appuis internationaux dans plusieurs pays pour construire l'image qu'au Venezuela, on y construit le socialisme du 21e siècle. Au Québec, on peut penser à la société bolivarienne, les Amis du Venezuela. Bref, il y a beaucoup d'organisations qui vont aller chercher à appuyer le gouvernement du Venezuela sans nécessairement amener quelques critiques. On peut attribuer la source de cette attitude-là qui n'est pas tout à fait nouvelle au niveau du socialisme puisque ça revient recréer les dynamiques de bloc contre bloc du stalinisme. En fait, pour les gens du Venezuela qui ont vécu sous des gouvernements sociaux-démocrates et néolibéraux, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Ça a été tout simplement utilisé, cette stratégie-là de communication, par des gens qui sont au sein du gouvernement de Chavez, comme par exemple le ministre de l'Information, qui est un ancien situationniste. Les situationnistes, c'est un courant littéraire proche des pensées libertaires anarchistes et qui est plus orienté vers la subversion culturelle. C'est un ancien situationniste qui est maintenant rendu une des figures de proue du chavisme en général. En fait, le chavisme, comme on vient de le dire, il y avait un situationnisme, mais aussi plein d'autres grandes orientations intellectuelles, politiques et parfois contradictoires entre elles-mêmes pour pousser leur propre agenda. Au sein même, par exemple, du gouvernement de Chavez, il y a des personnes aussi sinistres que le ministre de l'Intérieur qui est responsable du massacre de la guérilla de 1988 et qui a aussi orchestré un attentat contre les bureaux du patronat qui a été perpétré perpétré par un officier qui portait son badge. Pourtant, l'attentat, par la suite, l'enquête l'avait révélé. Et Hugo Chavez, à son émission, avait accusé les anarchistes d'avoir fait ça. Donc, c'est pas tout rose, en fait, au niveau des membres du gouvernement. Il y a aussi le ministre des Sciences et de la Technologie qui avait recommandé à Hugo Chavez de profiter du conditionnement métabolique du cerveau à la tombée de la soirée pour modifier l'heure de l'émission de télévision de Hugo Chavez. Ça peut sonner un peu machiavélique de ce que je vous dis, mais pourtant, c'est des choses qui ont lieu. Hein. On ne peut pas nécessairement donner la seule responsabilité de tout ça au gouvernement de Chavez. On n'aurait qu'à penser au TVA 18h, là, c'est vers ces heures-là que apparemment le métabolisme du cerveau serait plus réceptif. Donc, on peut voir de cette manière-là que Chavez est entouré de personnes corrompues, mais en même temps, ça participe à l'illusion que ce dernier est une personne franche et qui est bien naïve, qui est au centre du chavisme, qui contient plein d'agendas divergents. Mais en fait, ça va aller perpétuer la dichotomie entre les gens qui sont pour et contre Chavez. Puis l'idée, justement, de cette chronique-là, c'est d'aller au-delà de cette dichotomie pour justement aller voir c'est quoi les intérêts derrière ça. Les pro-Chavez vont aller chercher les arguments en faveur du gouvernement de Chavez, comme la création de coopératives, les missions d'amélioration des conditions de vie. J'ai lu aujourd'hui dans un article du journal, l'autre journal, qu'il y avait une étude états-unienne qui disait l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses ou de la population en général au Venezuela. Eh bien, on peut mettre quelques bémols, en fait, face à la création des coopératives qui serait pas, après tout, une réelle gestion ouvrière, comme on peut l'entendre dans une gestion horizontale des coopératives. En fait, la création des coopératives a été favorisée par le fait que l'État favorisait les contrats avec des coopératives, mais la formule des coopératives qui était proposée ne modifiait pas la structure interne des entreprises, qui faisait que c'était l'administration qui en venait à négocier les conventions collectives des travailleurs. Et le maire de Caracas, qui pourtant cite des intellectuels comme Chomsky, Trotsky, Antonio Negri, qui parlent de postmodernisme, le maire de Caracas, quand il a dû se confronter à des travailleurs qui revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de travail, le maire de Caracas leur a tout simplement répondu qu'il ne pouvait rien faire, puisque les administrateurs qui avaient négocié les conditions de travail avec le gouvernement avaient abouti à une entente et que dans ce contexte-là, les travailleurs de la dite entreprise coopérative avaient plus un mot à dire, dans le fond. Puisque la nouvelle forme des coopératives fait en sorte que les patrons, qui sont maintenant appelés des coopérativistes, n'ont plus de compte à rendre aux travailleurs et aux travailleuses. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs entreprises sont créées sous forme de coopératives. Et on dit parfois qu'il y a eu 200 000 coopératives qui sont concrétisées de cette manière-là. Eh bien, il y a un peu de nuance à faire au niveau de l'exaltation à ce niveau-là. Aussi, au niveau des missions, comme les missions humanitaires au sein même de l'État vénézuélien, comme Barrio Adentro et la Mission Robinson, qui avaient la mission d'aller faire des campagnes d'éducation et de permettre aux gens d'avoir accès à des services de santé et de médecine, qui étaient d'ailleurs des missions qui étaient directement dirigé et financé par la compagnie d'État de pétrole, eh bien, ils ont tout simplement récemment manqué de ressources et ils sont déconstruites. Malheureusement, donc, les arguments de la mission et des coopératives sont plus ou moins à 100% bonnes. Et pour ce qui est de l'amélioration générale des conditions de vie, les anarchistes qui avait participé à une entrevue avec un anarchiste français disait tout simplement, pour critiquer l'amélioration de la condition de vie des gens, que Oui, ils reconnaissaient en fait que matériellement, les gens puissent avoir eu une amélioration de leurs conditions de vie. Par contre, la manière que ça avait été fait, ça se fait dans une relation de dépendance face à l'État qui atomise en fait les avantages sociaux. On n'aurait qu'à penser à un milieu dans une lutte où est-ce qu'une communauté pourrait s'autonomiser pour améliorer collectivement les conditions de vie des gens. Contrairement à cette situation-là, au Venezuela, on peut penser à... On peut voir que l'État est allé favoriser individuellement les gens sans tisser de tissu, sans tisser de relations sociales solidaires, en favorisant les individus, mais sans créer de mouvement qui est en fait à la base de l'amélioration perpétuelle des conditions de vie des gens. Donc l'État, les anarchistes en question qui étaient interviewés, critiquaient ça face à l'amélioration des conditions de vie des gens. Quand on parle de l'atomisation des luttes sociales, on peut prendre comme exemple que le 8 mars, il y avait eu une mobilisation féministe et qui était sous des slogans anti-impérialistes et aussi une mobilisation étudiante qui, apparemment, selon l'interview à laquelle je me réfère pour faire cette chronique, les mouvements vont recevoir des mobilisations de la part d'en haut et qui vont aller mettre de l'avant un pro-chavisme notoire, contrairement aux luttes qui sont plus autonomes, qui vont être défavorisées dans l'appareil d'État qui est très bureaucratisé. Pour donner un exemple du favoritisme envers les pro-Chavez, il y avait des médecins qui occupaient des hôpitaux pour renégocier leur convention collective avec l'État. Et pendant ce temps-là, pendant le temps que Hugo Chavez les méprisait et les ignorait, Hugo Chavez est allé se présenter dans un hôpital où est-ce qu'il y avait clairement du pro-chavisme actif et pour leur donner gratuitement, tout à fait gratuitement, 30 % d'augmentation de salaire. Donc, c'est vous dire aussi qu'à chaque fois que l'État va aller contrôler des sphères d'activité économique, ça va être inutile d'affirmer que vous êtes un critique à l'égard de Chavez. Vous n'allez tout simplement pas recevoir l'emploi. Maintenant, je vais plutôt me continuer avec le 5 minutes qui me reste pour cette rapide chronique. Parler spécifiquement des conflits entre les travailleurs et l'État du Venezuela. En fait, un des problèmes principaux qui était souligné dans un site Internet d'analyse sur le Venezuela qui s'appelle venezuanalysis.com. Si je ne me trompe pas, c'est le vide stratégique et politique à intégrer la classe ouvrière au processus de révolution qui est en principe une des notions primordiales du concept de révolution socialiste. Au Venezuela, l'État est le principal employeur. En mars 2008, 425 conventions collectives étaient en attente d'être négociées. Parfois, dans les conflits de travail, le gouvernement va jusqu'à accuser les grévistes d'être des instruments de l'opposition quand ils déclenchent des grèves pour revendiquer une amélioration des conditions de travail. Et ce qui fait qu'il y a vraiment des scissions au sein même du mouvement ouvrier qui se créent. C'est très flagrant, les conflits entre l'État et les travailleurs et les travailleuses, comme par exemple dans le cas d'une compagnie électrique nationalisée, la CADAFE, que dans le fond, les travailleurs et les travailleuses avaient gagné le droit de participer aux négociations de leur convention collective, c'est-à-dire que c'était plus seulement les administrateurs et les administratrices qui allaient déterminer les conditions de vie les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses. Donc, dans une entreprise d'État, ça a été une lutte des travailleurs et des travailleuses pour avoir le droit de dire leur mot sur la gestion de la négociation de leur convention collective. Et ça a donné lieu à un comité de co-gestion, mais qui, sous le poids d'une bureaucratie étatique au sein même de cette compagnie nationalisée-là, le comité de co-gestion ouvrière a été réduit tout simplement à ce qu'on donnait l'exemple à tout simplement choisir la couleur des guirlandes de Noël qui allait garnir le hall de l'administration. Je termine ma chronique en lisant un texte des grèves des travailleurs du métro de Caracas au Venezuela qui a été distribué le 19 mars 2009. Donc, ça va qu'on suit. Nous, travailleurs du métro, nous ne voulons pas renoncer au contrat homologué. Cela fait maintenant presque un mois que s'est tenue la plus importante assemblée impulsée et dirigée par les travailleurs super motivés du métro de Caracas afin de défendre de façon unitaire le contrat qui a satisfait toutes les démarches légales pour être homologué par le ministre du Travail. Depuis cette date, le moral et la décision des travailleurs du métro n'a pas varié. Nous exigeons le respect du contrat homologué. Donc, il parle de l'attitude du gouvernement. Il s'agit d'une politique désastreuse. Tout d'abord, le président Hugo Chavez a commencé par nier que la crise du capitalisme puisse toucher le Venezuela. Ensuite, il a déclaré que si les prix du pétrole tomberaient à zéro, cette crise ne toucherait pas non plus. Et enfin, le gouvernement s'est retrouvé coincé avec la patate chaude et le 15 février. Une fois que l'amendement constitutionnel a été adopté, il a fini par admettre que nous sommes en crise et par proposer que nous serrer la ceinture. Ça, c'est pour vous donner une idée de la dynamique au sein au sein de l'État vénézuélien. Les élections vénézuéliennes régulent beaucoup, beaucoup le mouvement social. Et le texte que vous pouvez retrouver sur ainfo.fr termine comme suit. Le paternalisme et l'intervention de l'État n'ont qu'un seul but, que nous, les travailleurs, payons la crise et nous, travailleurs du métro de Caracas, le refusons. Nous ne renonçons pas à notre contrat homologué. Nous rejetons toute tentative du syndicat de le modifier dans notre dos et appelons à la constitution d'un vaste réseau de soutien et de solidarité avec notre lutte. Donc, c'était tout simplement une chronique qui avait comme objectif de souligner le fait que le socialisme du 20e siècle n'est finalement, à mes yeux, ça peut vous sembler peut-être cru, mais une légère... Un mot facilement dit. J'allais dire une panacée, mais je ne voudrais pas aller... utiliser un terme dont ce n'est qu'intuitivement que j'allais utiliser ce terme-là. Quoique, j'ai l'impression que ça serait pas si loin. Donc, je vous invite à aller vous informer sur le site Internet El Libertario dans la section Autres langages. Il s'agit du site de l'organisation anarchiste au Venezuela, si vous voulez avoir plus d'informations. On vous laisse entre les mains du croque-notcho et on vous dit à la semaine prochaine.
Ne vous laissez pas intimider par les musiques expérimentales. Délirantes, dérangeantes, elles savent